Bonjour à tous. Pendant ce dernier chant, j'ai ressenti une parole pour une personne qui est ici, une personne qui a éventuellement mal à l'estomac, des problèmes peut-être de digestion ou autre chose. Et le Seigneur veut te dire que ce matin, il veut te guérir. Au nom de Jésus. Amen.
Ce matin, sur ma chaise, je priais pour que le Seigneur suscite des personnes dans l'Église qui reçoivent ce genre de, de cadeaux. J'ai l'impression parfois qu'on n'a pas compris ce que c'était l'Église. On a un pasteur, on a des anciens, on a des responsables de ceci, on a des responsables de cela. Et puis en fait, c'est ce que le Seigneur aimerait faire avec chacun de nous. Nous utiliser simplement pour être en bénédiction pour les autres. Et il faut un peu du courage pour se lancer, se lever et dire, voilà, j'ai l'impression que le Seigneur a une parole pour moi. Est-ce que quelqu'un a des problèmes d'estomac parmi nous? Alléluia. Ah, pas pour les problèmes d'estomac, mais alléluia parce que... Alors on va prier encore. Hein? Seigneur, merci parce que tu dis dans ta parole que, voilà... Tu donnes à l'un une parole inspirée, à l'autre une pensée prophétique, à un autre le don de guérison, à un autre, à un autre, à un autre. Merci parce que, Seigneur, c'est pas une dictature l'Église, c'est un corps. Et je te remercie pour les personnes qui s'offrent, qui se donnent, qui reçoivent les cadeaux que tu veux leur donner pour les transmettre. Et je veux te remercier ce matin pour cette parole qui a été partagée. Et je te demande que, ouais, comme tu le dis dans ta parole, tu envoies ta parole et tu les guéris. Et je te demande, Seigneur, que cette parole se manifeste maintenant et accomplisse cette œuvre de guérison dans notre sœur, à la gloire de ton nom. Amen. 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 C'est pas compliqué, mais c'est difficile. Hein. Voilà, j'aimerais continuer dans la suite des deux messages précédents, vous encourager, vous exhorter à discerner les temps dans lesquels nous sommes. Parce que nous verrons que le fait de discerner ce qui se passe dans notre monde nous permet aussi de nous situer très clairement. Si on ne sait pas ce qui se passe, on fait n'importe quoi, puis on se laisse entraîner, comme le dit la parole de Dieu, à tous les vents de doctrine qui peuvent surgir. Donc je pense qu'en tant que chrétiens, nous avons cet immense privilège d'avoir un pas d'avance sur le monde. Nous, on sait ce qui va se passer, le monde ne sait pas. Donc il va à tâtons, et... Vous verrez pourquoi l'Église a un rôle extrêmement important à jouer dans notre monde, dans notre société. On y viendra dans quelques instants. Mais j'aimerais lire d'abord un passage dans la première épître à Timothée, au chapitre 3, verset 15, qui nous dit « Je t'écris ces choses avec l'espérance d'aller bientôt vers toi. Mais si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. » Donc c'est pas rien, hein? Si vous enlevez les deux colonnes, peut-être que le plafond va s'écrouler. Pardon. Donc l'Église est considérée comme la colonne et l'appui de la vérité. Et dans 1 Corinthiens au chapitre 12, verset 27, nous lisons « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Vous êtes le corps de Christ. Nous avons considéré, lors des deux messages précédents, l'influence incroyable qu'ont sur nos sociétés les idéologies qui traversent en fait tout le cours de l'histoire de l'humanité. On avait mis un tableau avec des dizaines d'idéologies qui ont essayé de conduire les sociétés et les individus, bien sûr, dans une certaine direction. Puisque le sens du mot idéologie, c'est un système de pensée qui conditionne le comportement individuel et collectif. Donc, sans même s'en rendre compte, nous qui sommes dans le monde, ces idéologies ont une influence sur nos pensées et ensuite, bien sûr, sur notre manière de vivre, sur notre éthique, sur notre morale, voilà, sur toute notre vie. Mais on ne s'en rend pas toujours compte. On ne sait pas trop d'où le vent vient, on ne sait pas trop d'où ces choses sortent et arrivent et entraînent des sociétés entières. Donc la parole de Dieu nous dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Donc il y a une autre manière d'aborder les choses, une autre manière de les comprendre, une autre manière de les vivre. Dans le premier livre des Chroniques, au chapitre 12, il est question au verset 32, donc 1 Chronique 12, 32, les fils d'Issacar, C'était une des tribus d'Israël. Et qu'est-ce qu'il a dit ? C'est étonnant quand même dans ces passages où il parle des différentes tribus. Les fils d'Issacar qui savaient discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël, 200 chefs et tous leurs frères sous leurs ordres. Donc ils avaient cette capacité, les fils d'Issacar, de discerner les temps pour savoir ce que devait faire Israël. Et ce n'est pas rien. On sait que c'est à cause du discernement que ces personnes avaient que le peuple d'Israël a pu être conduit ou sortir des situations périlleuses dans lesquelles il se trouvait. Donc Jésus nous enseigne aussi que nous devons discerner les signes des temps. Quand le ciel est rouge à la fin de la journée, vous dites « Ah, il fera beau demain parce que le ciel est rouge, etc. » Mais vous ne savez pas discerner ce qui est en train de se passer, ce qui est en train de venir. Donc, cela nous est utile pour nous, parce que si je discerne, encore une fois, je vais diriger ma vie dans une certaine direction et non pas me laisser entraîner par l'idéologie dominante du moment. Et vous verrez que l'Église a un rôle capital à jouer. Des fois, je me dis, mais on ne se rend pas compte de l'importance de la présence de l'Église dans ce monde. Je ne parle pas d'une institution. J'en parlais tout à l'heure, mais du corps de Christ. Le corps de Christ, ce n'est pas une institution, c'est le corps de Christ. Alors vous rappelez, on a parlé, juste pour vous rafraîchir la mémoire, pour vous montrer comment le monde a été influencé au travers de l'histoire et comment les choses ont évolué petit à petit pour nous amener dans notre temps à vivre et à penser d'une certaine manière, parce qu'on ne vit pas aujourd'hui et on ne pense pas aujourd'hui comme on pensait au Moyen-Âge. Et on ne vit pas aujourd'hui et on ne pense pas aujourd'hui comme on pensait au siècle des Lumières. Donc, si vous discernez ces courants, ces idéologies qui entraînent le monde vers une utopie, en fait, parce qu'on n'y arrive jamais, chaque fois c'est une nouvelle qui vient, puis on se dit « ça y est, c'est la bonne, on y va », puis en fin de compte, c'est l'impasse. Donc, on voit qu'il y a les temps modernes. Donc ça, c'est les termes que les philosophes, les gens qui sont dans ces trucs-là, donnent. Hein. Donc, il y avait les temps prémodernes, ça va de l'Église au Moyen-Âge, et là, tout était caractérisé par le théocentrisme, tout était focalisé sur Dieu. L'Église catholique romaine toute puissante amenait nos sociétés, là bien sûr je parle des sociétés occidentales, tout était centré là-dessus. C'est la domination des théologiens, et vous étiez sur terre juste pour vous préparer d'aller au ciel. Alors on pourrait se dire, mais c'est super, ça c'était le bon temps, hein, mais c'était sous l'oppression. En fait, une oppression spirituelle, une oppression religieuse, on ne vous demandait pas si ça vous plaisait ou pas, vous deviez le faire, que ça vous plaise ou non. Hein, donc c'était une sorte de dictature quand même religieuse qui était imposée à la société ambiante. Donc Dieu est au centre de la culture et de la société. Enfin Dieu, le Dieu qu'on présentait, hein, évidemment. Voilà. Ça a duré quand même pas mal de temps et est venu le temps de la modernité, donc du 16e, 19e siècle. C'est environ 350 ans quand même où notre société va être complètement chamboulée, transformée. Parce que, on a quand même un petit peu grandi dans la connaissance, les gens ont commencé d'apprendre à lire, un peu plus qu'au Moyen-Âge, etc. Et on voit que petit à petit, l'éternité, qui était le centre, l'obsession presque de la société, l'éternité quitte le centre des préoccupations. Alors, ça ne veut pas dire qu'on rejette Dieu, mais on lui demande d'aller dans la cour d'à côté pour nous laisser jouer tranquillement, hein. Et alors on voit bien sûr des trucs comme l'idéologie de l'humanisme, hein, qui place l'homme au centre des débats. Dieu est sur le côté, maintenant c'est l'homme qui est au centre des débats. Hein. Le moi devient le centre de l'univers. Je pense donc pas grand-chose. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Il y a quelque chose dans le cœur de l'homme qui cherche à, je ne sais pas quoi, une liberté absolue, une capacité de se déterminer, d'être autonome, de prendre ses décisions. Donc le modernisme, c'est mieux que le Moyen-Âge, mais il faut encore un peu plus. Et c'est ce qui va se passer avec le post-modernisme, et on est en plein dedans. Dieu est mort. À partir des années 60, on a déclaré la mort de Dieu. Même des théologiens disaient « Dieu est mort ». Vous pouvez croire que Dieu existe ou n'existe pas, ce n'est pas un problème. Croyez, croyez, mais Dieu est mort. La vérité n'existe pas, c'est un leurre, parce que toute vérité émane d'une pensée, et ça ne veut pas dire que cette pensée soit meilleure que celle-là. Donc on part du principe que la vérité absolue n'existe pas. et on commence de déconstruire tous les grands paradigmes, toutes les grandes vérités qui ont conduit ces sociétés, ces civilisations. On dit tout ça, non, c'est pas bien. Alors on ouvre encore un peu plus le champ et on dit, mais pensez ce que vous voulez, imaginez ce que vous voulez, faites-vous votre propre vérité. Et on voit que le moi maintenant va régner en maître. Hein. On déconstruit la vérité aussi. On a vu lors du dernier message la théologie libérale qui entre en jeu et qui vient vous dire oui, ce verset, non, ça c'est pas Dieu qui l'a écrit, ça ce sont les hommes. Puis ces quatre versets-là, on peut penser que oui, c'est peut-être Dieu qui l'a écrit. Par contre, les miracles, alors dans ça, il faut qu'on sorte de la Bible parce que non, c'est pas raisonnable les miracles. Donc tout ce qu'on ne peut pas comprendre raisonnablement, ben, on le met de côté. Donc, vous imaginez, c'est une défragmentation. Ce qui était une unité avant, on le défragmente, hein, on le déconstruit. Hein. Et puis, c'est le règne de l'individualisme. C'est impressionnant aujourd'hui de voir que l'individualisme règne. Chacun est son petit roi, chacun est son petit Dieu, chacun fait ce que bon lui semble. C'est bon. Et moi, je me souviens, avant que je devienne chrétien, j'ai eu le privilège de naître dans une société libre. Je me souviens toujours ma mère qui se disait « Fréquente pas trop tôt, hein, vis ta vie !» Bon, à 16 ans, elle était enceinte, la pauvre. Mais, ben oui, non, mais j'entends, comprends. Hein, parce que juste avant, dans les années 40, 50, tout ça, tout était encore bien dirigé, bien. Hein. Et puis tout d'un coup, on dit « Stop, on arrête tout, c'est la liberté, allez, chacun fait ce qu'il veut. » Ben, si on vous donne la liberté, ben, vous allez la prendre, non? Vous n'allez pas rester enchaîné à des traditions, vous allez profiter de ce temps de liberté. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. On me disait, mais fais ce que tu veux. Tu peux faire ce que tu veux de ta vie. Alors, moi, j'étais libre, j'étais heureux à mon travail, heureux dans le sport, j'avais des copains, des copines, je voyageais. Mais, malgré cette liberté, il y avait un vide à l'intérieur de moi-même. Alors, on ne le dit pas forcément, parce qu'on est des hommes. Mais je me souviens, quand les premières drogues sont arrivées, le LSD notamment, des trucs comme ça, quand on en prenait, moi j'avais une aspiration à vivre quelque chose de... Je ne sais pas, je n'arrivais pas à l'expliquer, mais c'est dans ces moments-là que je ressentais un immense vide intérieur. Alors que j'avais tout, j'avais un bon métier, comme je vous l'ai dit, j'avais tout ce qui aurait dû satisfaire ma vie. Le postmodernisme avait offert la liberté. Prends-la à bras-le-corps, vis-la intensément. Et pourtant, il y avait un vide. Il y avait un vide profond. Parce que notre société postmoderniste, elle est championne pour nous remplir en superficialité. La première couche, c'est super. Le problème, c'est que nous, on a des profondeurs. On a été créé avec une profondeur. On n'a pas été créé superficiel. Alors, vous avez beau avoir un beau métier, une belle voiture, moi j'avais une 2 chevaux. Non mais, moi j'étais heureux de ma 2 chevaux. Puis je soulevais le capot, puis je saluais les gens au passage. Pou, je klaxonnais. La vie était belle. Et puis, malgré tout, ça ne remplissait pas ma vie. Parce que Dieu nous a créés avec des profondeurs, avec quelque chose qui veut remplir jusqu'à toute la plénitude. Donc Dieu n'est pas un Dieu superficiel. Il ne vient pas juste jeter quelques petits cadeaux comme ça dans nos vies pour qu'on soit heureux. Notre cœur, il n'a pas été fait pour manger des hamburgers et puis pour avoir des strass et des paillettes. Non, c'est pour ça que même les gens qui sont milliardaires, qui ont tout ce qu'on peut imaginer et encore plus, ben ils sont dépressifs, ça ne joue pas. Mais ils le cachent, ils ne le montrent pas trop, mais un jour on les voit sur ces fameux journaux People, voilà, ils se droguent, enfin ils se divorcent à tout. Hein, voilà. Donc le cœur de l'homme n'a pas été créé pour vivre en superficialité. Et il n'y a que Dieu qui peut venir remplir cette profondeur de notre vie. Et c'est là que l'Église trouve sa raison d'être dans ce monde, sa mission. Son rôle, sa spécificité, son mandat. Mais si vous réfléchissez un petit peu, un tout petit peu, sur l'importance de l'Église dans ce monde, vous découvrez vraiment des choses impressionnantes. Alors, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc, nous l'avons vu précédemment, ces idéologies vont te conduire d'une manière ou d'une autre dans quelque chose. Dans notre éthique de vie, dans notre morale, dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, au niveau du couple, au niveau de la famille, partout, elle s'infiltre, partout. Et nous, on n'en est pas toujours conscients. Hein. Donc, voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit notamment que nous devons discerner. Essaye de comprendre ce qui se passe autour de toi, pour ne pas te laisser entraîner notamment. Hein. Alors, ce que va faire le postmodernisme, c'est faire sauter les derniers carcans qui sont encore là autour de nous. Hein, camisole de force, on l'a déjà fait péter du temps de la modernité. Et puis maintenant, il y a encore quelques chaînes qu'il faut faire sauter. Alors on les fait sauter les unes après les autres. On veut s'affranchir, comme j'ai dit, des grandes vérités. C'est impressionnant de voir la société qui, pendant des siècles, a marché sur les autoroutes de grandes vérités qui concernaient tout le monde. Et tout d'un coup, les choses changent. Donc, en se donnant toutes ces libertés, on prend des risques. Parce que à partir du moment où je suis moi le maître de ma vie, je vais être responsable de ma vie. Si c'est quelqu'un d'autre qui est responsable de ma vie, je peux lui en vouloir. Mais là, en entrant dans cette manière de vivre, je deviens responsable de ma vie. C'est moi qui vais devoir prendre les grandes orientations. Et ce qui est impressionnant, c'est de voir que la liberté qui nous a été offerte a été utilisée pour quoi ? Je dirais prioritairement pour valoriser l'individu. Si vous regardez aujourd'hui notre société, qu'est-ce qu'on voit ? Donc, on s'est affranchi du carcan familial. Oh, le couple, bon, 2, 3 ans, 5 ans, 10 ans, mais après, oh, hein, toutes ces familles décomposées, déstructurées, déconstruites, qui reconstruisent avec des pièces de puzzle, voilà, qui essayent de... C'est impressionnant de voir. Donc, on valorise l'individu. On s'affranchit de l'autorité de l'État. Le plus possible, hein, de la religion. Je lisais un article dernièrement, en 30 ans, l'Église réformée a perdu la moitié de ses membres. C'est aujourd'hui, c'est dans notre société, c'est pas il y a 200 ans en arrière. Voilà. On survalorise l'individu. Hein, bien sûr, comme on l'a dit, il est au centre, hein, donc il faut s'en occuper. Hein. On recherche l'épanouissement personnel. On recherche le plaisir. Qu'est-ce qu'on ne fait pas aujourd'hui pour faire plaisir à nos petits-enfants ou à nos enfants en allant dans tous ces grands parcs d'attractions ? Aujourd'hui, c'est ça. Hein, on ne sait plus aller à la forêt, découvrir des endroits de la nature, attendre pendant une heure pour voir un renard passer derrière le sapin. Non, non, il faut aller à Euro Disney, à Europa Park, à Legoland et tout ce que vous voulez. C'est impressionnant. C'est là qu'on vit les choses. Hein, OK ? Donc c'est le divertissement, la recherche du plaisir, le culte du corps. Waouh, aujourd'hui, hein, vous avez vu comme je suis musclé ? On passe des heures et des heures alors qu'on pourrait aller courir en forêt, dans la nature. On passe des heures sur un vélo, dans un appartement, ça va encore, mais dans ces centres de culturisme et tout, on fait de la gonflette, tout, bref, voilà. Et c'est ça, hein. On est devenu une société hédoniste. Vous savez, on utilise souvent des mots, hein, hédoniste, ça veut dire quoi ? Est-ce que quelqu'un sait ce que c'est, les hédonistes ? Il y a quand même des gens qui ont été à l'école, hein, ici. Moi, je ne savais pas. Mais c'est vrai. C'est la quête du plaisir. C'était une secte à l'époque. Moi, je dois le lire. Hein. Les hédonistes étaient une secte de philosophes grecs qui plaçaient la source du plus grand bonheur dans la satisfaction du désir naturel. Donc, nous sommes dans une société hédoniste. C'est mon bonheur à moi. Ça va ton bonheur ? Oui, oui. Mon bonheur va très bien, tu parles. C'est un mensonge, c'est pas vrai. La plupart des gens, on le verra. Hein. Donc, voilà où nous conduit le postmodernisme, vous avez compris ça ? Mais quels sont les fruits ? Vous reconnaîtrez l'arbre à ses fruits. Ben, regardez l'arbre. Regardez le postmodernisme, quels fruits il a donnés ?